On va ouvrir la parole de Dieu. Notre dernier chant de ce matin faisait mention d'une encre. Et j'ai eu à cœur ce matin de vous parler de l'espérance. L'espérance qui, dans la parole de Dieu, est comparée à l'encre, à une encre de l'âme. Notre âme a besoin de cette encre. Notre âme, qui est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées, qui est le centre de notre être, est affectée. Cette âme est affectée par les différents événements qui pourraient nous arriver dans la vie. Et nous avons besoin d'une encre sûre et solide. On va lire le texte d'introduction de ce matin, qui se situe dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, les choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Que Dieu soit béni. L'espérance, ici, il nous est dit que nous la possédons, au verset 19, nous la possédons comme une encre de l'âme. Une encre sûre et solide, comme cette encre que vous avez sur cette image. Une encre sûre et solide qui va nous tenir afin que nous ne partions pas à la dérive emportée par tout un tas de courants, notamment le courant du découragement. Dimanche dernier, vous vous rappelez que nous avons parlé... Dimanche dernier, nous avons parlé de la patience de Christ, que notre cœur soit dirigé vers la patience de Christ. Et nous avons vu cela dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, et nous avons longuement parlé de la patience, et notamment la patience de Christ, et que nos cœurs soient donc dirigés vers cette patience. Et il y a bien sûr un lien étroit entre la patience et l'espérance. Évidemment, quand on n'a pas d'espérance, comment pouvons-nous patienter? Mais nous avons une espérance, et cette espérance, nous la possédons dans notre cœur et elle va produire de la patience, mais pas que, bien sûr. Ces deux éléments, patience et espérance, sont interactives entre elles. Dimanche dernier, nous avons parlé de cette parabole du figuier stérile et le vigneron va demander un délai d'un an supplémentaire au figuier afin qu'il puisse porter du fruit. Donc il y a là une espérance, il espère, après avoir creusé tout autour et mis du fumier, il espère que le figuier va porter du fruit. Et pendant un an, il va pouvoir ainsi patienter. On va lire un autre texte dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 3. Juste avant, verset 2, il parle de l'espérance, mais on va lire à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Ici, le mot persévérance, on peut aussi le traduire dans le texte, d'ailleurs dans d'autres passages de la parole de Dieu, c'est traduit ainsi, il est parlé de patience. On peut traduire aussi par endurance. Les termes sont interchangeables pour ce mot en grec, et on voit ici le lien qui peut exister entre l'espérance et la persévérance, ou la patience et l'endurance. Il est fait question, bien sûr, de cet amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. On en reparlera tout à l'heure. L'espérance, excusez-moi, est donc liée à la patience. Elle va produire, promouvoir cette patience dans nos cœurs. On peut lire un autre texte où il est question de Jésus dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considère en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Il nous est dit que Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée. Une joie nous est aussi nous réservée. Et c'est notre espérance. Une joie nous est réservée. Au-delà de cette vie, ici-bas, une joie nous est réservée dans le ciel. Et en vue de cette joie, dans l'espérance de cette joie, nous pouvons continuer notre course avec persévérance, avec patience, c'est le même terme aussi. Nous pouvons continuer notre route. Parce que ce qui tient notre cœur, c'est cette espérance. Or, cette espérance de Dieu, cette espérance qui vient de lui, est une véritable espérance. Parce qu'il y a des fausses espérances. Avoir notre cœur, j'allais dire, sur une fausse espérance et être fondé sur du sable. Vous connaissez aussi cette parabole du Seigneur. Il nous faut vraiment construire sur du roc. Et sinon, si nous avons une fausse espérance, le jour où nous allons réaliser que c'était une fausse espérance, cela va produire beaucoup dans notre cœur de désarroi, cela va nous déstabiliser. Mais l'espérance que nous avons est une espérance véritable. Déjà parce qu'elle est fondée sur Dieu. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle. C'est-à-dire le caractère même de Dieu nous assure que cette espérance est une véritable espérance. C'est lui qui nous l'a proposée. Il est dit au verset 18 du passage que nous avons lu tout à l'heure, que cette espérance nous a été proposée. Dieu nous propose lui-même une espérance. C'est lui qui nous la propose. Or, nous savons que Dieu est fidèle. Et non seulement Dieu est fidèle, mais il est parlé ici dans le texte que nous avons lu en introduction, que Dieu a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Il intervient par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Il est parlé de ces deux choses immuables. Or, il y a deux choses immuables qui nous assurent que cette espérance est une véritable espérance, qui fait que Dieu ne ment pas. Sa parole est oui et amen. C'est la première chose qui est immuable. Le ciel et la terre, qu'est-ce qui vont arriver? Le ciel et la terre vont passer. Tout ce que nous voyons ici-bas est appelé à disparaître. Mais la parole de Dieu, elle, demeure éternellement. Ce que Dieu dit arrive. Quand Dieu fait une promesse, il est question de la promesse que Dieu a fait à Abraham et il la cite en exemple. Lorsque Dieu fait une promesse par sa parole, il est sûr et certain qu'il tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. C'est une chose immuable. La deuxième chose immuable, on pourrait se contenter de la première, n'est-ce pas? On pourrait dire, mais la parole de Dieu nous suffit parce qu'on sait que Dieu est fidèle. On sait que sa parole est oui et amen. Mais Dieu aussi connaît la faiblesse de nos cœurs. Dieu connaît aussi de quoi nous sommes faits. Il sait que parfois, même lorsque nous recevons une parole de Dieu, nous pouvons la mettre en doute. Alors Dieu intervient par un serment. C'est parce que Dieu connaît la faiblesse de notre cœur qu'il fait un serment. Il a dit à Abraham, certainement. Dieu intervient par un serment. Alors, on a la parole et on a le serment. On a le serment de Dieu. Et ça là nous assure que cette espérance est une véritable espérance. Dieu ne nous trompe pas. Il ne trompe pas notre confiance. Cette espérance que Dieu nous a proposée est donc fondée, j'allais dire, sur la personne même de Dieu, sur sa parole, sur ses promesses et sur ce serment. Or, nous savons qu'il nous a fait beaucoup de promesses, le Seigneur. Il est celui qui nous a dit qu'il ne nous délaisserait point. Mais en plus de ces promesses qui concernent la vie d'ici-bas, il y a une grande promesse, celle de la gloire avec lui. Alléluia. Et là, Dieu aussi intervient. Il donne sa parole. Et le gage de cette promesse, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus, Jésus qui est ressuscité et qui est remonté à la droite de Dieu le Père. Tout à l'heure, dans Romains chapitre 5, nous avons dit que cette espérance, elle ne trompe point. Une fausse espérance trompe. Elle trompe la confiance. On peut tromper la confiance de quelqu'un en lui donnant une fausse espérance. Mais dans Romains chapitre 5, il est question de cette espérance qui ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu qui a été manifesté a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu nous a révélé son amour par le Saint-Esprit. Et juste après, on ne l'a pas lu, à partir du verset 6, l'apôtre Paul va nous parler de cet amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Alors même que nous n'aimions pas Dieu, Dieu nous aimait déjà. Alors même que nous étions ennemis de Dieu, lui nous aimait déjà. Alors même que nous étions contre Dieu, lui, Jésus, par amour pour nous, est monté sur la croix. Alléluia. À plus forte raison maintenant que nous avons mis notre confiance en lui, ne nous abandonnera-t-il pas et nous assure la gloire avec lui pour l'éternité, que son nom soit béni. L'amour, l'espérance repose aussi sur l'amour de Dieu. L'espérance ne trompe point. L'espérance que Dieu nous a proposée ne trompe point. C'est Dieu lui-même qui nous propose cette espérance. Allons-nous accepter cette espérance que Dieu propose à nos cœurs? Ou allons-nous la refuser? En tout cas, si nous saisissons cette espérance, il nous est dit qu'elle est pour nous un refuge. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons lu ensemble que nous, la fin du verset 18, dont le seul refuge a été de saisir cette espérance, de saisir l'espérance que Dieu nous a proposée. Vous voyez, saisir cette espérance. Saisir cette espérance. Dieu nous propose une espérance. Sachons à quelle espérance nous sommes appelés les uns et les autres. C'est pas rien cette espérance. C'est extraordinaire. Cela nous aide à surmonter toutes les vicissitudes de la vie, toutes les épreuves. Au mois de novembre, chaque année, eh bien, c'est le mois où on aide un peu plus, où on se rappelle un peu plus chaque année des églises qui sont persécutées au travers du monde. Qu'est-ce qui fait tenir nos frères et sœurs en la foi? Qu'est-ce qui les fait tenir? C'est l'espérance. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait tenir nos frères et sœurs qui sont dans des pays où ils sont torturés parfois? C'est l'espérance. Ils ont trouvé ce refuge parce qu'ils ont saisi cette espérance. Et rien ne pourra enlever cette espérance. Nous voulons tenir fermement cette espérance, la saisir dans notre cœur et jamais la relâcher. Job avait une espérance, il a saisi cette espérance. Il a dit, mais quand ma peau sera détruite, je sais que mon Rédempteur est vivant, je le verrai. Il a pu tenir parce qu'il a saisi cette espérance. Il avait une espérance, cette espérance de la gloire, cette espérance aussi, eh bien, de la grâce de Dieu qui nous accompagne sur cette vie, l'espérance aussi qui fait que on sait que Dieu est en train d'agir, qu'il est en train d'accomplir ce qu'il veut dans nos vies et avec nos vies. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Le Seigneur est celui qui nous propose une espérance. Et c'est pour nous un refuge dans tout ce qui pourra nous arriver. Quand tout va bien, c'est facile d'attendre. Parler de patience tout à l'heure. C'est facile d'attendre quand tout va bien. C'est facile d'espérer quand tout va bien. Mais c'est justement lorsque tout va mal que notre espérance prend alors toute son relief et que nous voulons encore plus eh bien, nous y accrocher. Parce que cette espérance, nous est-il dit au verset 19 que c'est une encre de l'âme. L'encre de l'âme. On sait à quoi sert une encre. Ça empêche les bateaux de dériver lorsqu'ils veulent stationner à un endroit. Ils sont là. Et qu'arrivent les vents, les courants, eh bien, ils sont tenus par ces ancres. Dans le chapitre 27 des Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul est sur ce bateau qui a été battu par la tempête pendant 14 jours. Ils approchaient de l'île de Malte. Et là, il nous dit dans la crainte de heurter contre des rochers, contre des bancs de sable, eh bien, ils ont jeté des ancres pour stabiliser le bateau en attendant le lever du jour parce que c'était la nuit. En attendant le lever du jour. Donc, ils ont pu stabiliser le bateau comme cela. Et après, bien sûr, ils ont pu, au lever du jour, eh bien, sortir du bateau et ainsi avoir la vie sauve. Vous savez, cette ancre, vu que c'est l'espérance que Dieu nous a proposée, il nous est dit qu'elle est sûre et solide. C'est pas une ancre rouillée hein, qui va se cacher. Ce n'est pas une petite ancre aussi qui ne serait pas assez résistante, assez forte pour tenir un gros bateau. On ne va pas mettre une toute petite ancre pour tenir un énorme bateau, vous avez bien compris. Mais cette ancre, elle est sûre, elle est solide et c'est elle qui va nous tenir. Et elle n'est pas mise n'importe où, cette ancre. Il nous a dit qu'elle est mise au-delà du voile, au-delà du voile. au-delà du voile. C'est vrai que on pourrait mettre l'ancre, la jeter n'importe où, et si elle accroche sur un banc de sable, s'il y a un fort vent, un fort courant, ça risque quand même de pas assez tenir. Mais là, il nous est dit qu'elle pénètre au-delà du voile. C'est l'endroit le plus sûr qui existe. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15 que si nous espérons en Christ seulement pour la vie présente, nous sommes malheureux, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement pour cette vie que nous avons de l'espoir, l'espoir que, par exemple, que financièrement ça va mieux, l'espoir que la santé ça ira mieux. Oui, merci Seigneur. Mais si notre espérance c'est que pour les choses d'ici-bas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, dit l'apôtre Paul. Notre espérance, l'ancre que nous avons, elle pénètre au-delà du voile. Alors dans l'Épître aux Hébreux, il est question à plusieurs reprises du voile. Alors on va un petit peu parler pour bien comprendre de quoi il s'agit. Dans l'Épître aux Hébreux, il est parlé du voile et qui fait référence, ce voile, au voile qui existait dans le tabernacle qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce lieu très saint qui où il y avait la présence de Dieu et seul le souverain sacrificateur, et encore une fois par an, hein, c'était pas tous les dimanches, hein, c'était une fois par an, il entrait dans le lieu très saint et il rentrait en tremblant, hein, parce que il aurait pu être foudroyé, il y avait là la sainteté de Dieu, et il fallait en plus qu'il entre avec en apportant du sang, vous savez, voilà, un animal était sacrifié, et voilà, et quelqu'un avait payé, donc, et c'est pour ça qu'il était accepté, mais ce voile était fermé. Ce voile était fermé. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il s'est passé quelque chose. C'est que le voile du temple, qui séparait justement ce lieu saint du lieu très saint, a été déchiré de haut jusqu'en bas, sans le secours d'aucune main humaine, du haut jusqu'en bas. Et il nous est dit, eh bien, dans cet épître aux Hébreux, eh bien, que le Saint-Esprit, tant que le voile demeurait, le Saint-Esprit montrait alors avec évidence que ce chemin qui conduit jusqu'à Dieu était encore fermé. Mais maintenant, Christ, étant mort sur la croix, ayant ôté le péché sur la croix, et étant ressuscité, il a déchiré le voile et il a tracé une route nouvelle. Alléluia. Cette route nouvelle va nous conduire jusque dans la gloire, jusque dans la présence sainte, glorieuse de notre Seigneur, à lui seul soit toute la gloire. Et c'est là, au-delà du voile, c'est là que cette ancre a été jetée. Cette ancre a été jetée à cet endroit-là. Elle a été mise à cet endroit. Et rien ne pourra l'enlever, car c'est le lieu le plus sûr qui existe. La présence de Dieu. Amen. Il peut arriver n'importe quoi. Dieu reste sur son trône. Lors du déluge, où est-ce qu'il était le Seigneur ? Sur son trône. Il peut arriver n'importe quoi. Une bombe atomique ? Dieu reste sur son trône. Arrive une bombe atomique ? Mais nous avons une espérance. Une espérance. C'est mieux qu'un bunker, hein ? Pareil dans certains pays, notamment en Amérique du Nord, là, ils se construisent de plus en plus des bunkers, dans la crainte d'une troisième guerre mondiale ou autre. Mais mon espérance, elle n'est pas en me creusant un trou. J'ai une espérance là-haut, alléluia. Au-delà du voile. Au-delà du voile. Et c'est là où Jésus est entré. Il est ressuscité, il est remonté à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que son nom soit glorifié, alléluia. Est-ce que nous aurions pu nous-mêmes mettre cette ancre ? Non. C'est Jésus qui a été la mettre à cet endroit-là. Jésus le précurseur. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a un bateau ? Pourquoi il y a un bateau sur cette image ? Jésus, excusez-moi, celui qui a écrit cette épître aux Hébreux, emploie un terme de navigation, un outil des navires, une ancre. On sait ce que c'est qu'un précurseur. C'est la seule fois dans toute la Bible que ce mot précurseur est employé. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Il n'y a que là. Or, c'est très intéressant, ce terme précurseur. C'est très intéressant, ce terme précurseur, tel qu'il est mentionné dans la parole de Dieu. Parce qu'un précurseur, c'était quoi en navigation ? Un précurseur, c'était un bateau, un petit bateau, une petite chaloupe. Et la petite chaloupe amenait l'ancre jusque dans un lieu sûr, sur un port ou sur le rivage, pour la mettre. Parce que la jeter dans l'eau, on ne savait pas ce qu'il y avait en dessous. Et le gros bateau, s'enfonçant plus profondément dans l'eau, ne pouvait pas s'approcher des terres, parce que sinon il aurait heurté des rochers ou un banc de sable, et il aurait échoué. Donc on envoyait une petite chaloupe qui s'appelait le précurseur. On mettait l'ancre dessus et on l'apportait. On l'apportait pour l'accrocher. On l'apportait dans un lieu sûr, on l'apportait sur le port ou on l'apportait donc sur les rochers pour sur le rivage. Et le bateau était tenu à cette ancre avec une corde. Et il emploie ce terme pour nous dire ce qu'a fait Jésus. Là, au-delà du voile, personne d'autre n'aurait pu aller là. Personne. Lui seul est entré. Lui seul, Jésus, le souverain sacrificateur. Lui seul, le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, entré. Lui seul pouvait y entrer. Prenez bien. Lui seul pouvait y entrer avec le sang de l'animal sacrifié. Lui seul pouvait entrer dans ce lieu. Personne d'autre. C'est pour ça qu'il est question de Jésus, le précurseur, qui est entré au-delà du voile. Lui seul pouvait entrer là, apportant cette ancre. Là où Jésus est entré, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus a ouvert pour nous la route. C'est lui qui a mis cette ancre dans un lieu sûr. Et c'est pour cela que quoi qu'il puisse arriver, nous savons où nous irons. Nous savons que nous sommes entre les mains du Seigneur. Nous savons que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Quoi qu'il arrive, nous ne voulons pas laisser le doute pénétrer nos cœurs. Nous ne voulons pas que les pensées qui peuvent arriver suite à des événements dans notre vie nous déstabilisent. Nous avons une espérance au-delà du voile. Alléluia. Nous allons une autre espérance. Jésus est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Alléluia. Quelle assurance. Quelle paix. Quelle joie. Quelle patience. Cela nous procure de savoir que cette ancre a été mise au-delà du voile. Elle n'a pas été mise sur un banc de sable pas stable. Elle n'a pas été mise sur un petit rocher qui pourrait rouler au fond de la mer. Mais cette ancre a été mise en lieu sûr. Elle est attachée en lieu sûr. Elle pénètre au-delà du voile. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons donc saisir cette ancre, cette espérance qui nous a été proposée. Que Dieu soit glorifié pour ce qu'il fait dans nos vies. Il est celui qui a toujours été fidèle jusqu'ici. Nous pouvons le dire, nous pouvons le confesser. Et il le sera encore demain et jusque pour l'éternité. Que son nom soit glorifié. Frères et sœurs, ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas aller à la déprime. Oui, les temps deviennent difficiles. On le voit bien autour de nous. Il y a des risques, des guerres et des bruits de guerre. Il y a des famines, peut-être. On pensait que la France, pays, un des pays les plus riches, serait à l'abri. Mais les abris que nous procure le monde d'ici-bas ne sont pas stables, ne durent pas. La richesse n'est pas un abri sûr, n'est pas un refuge sûr. Le seul refuge qui soit sûr, la seule ancre sûre et solide a été mise au-delà du voile. C'est l'espérance qui nous a été proposée. On peut tout perdre. On peut perdre sa jeunesse. On peut perdre sa santé. On peut perdre tout ce que l'on a ici-bas. Mais jamais, jamais, si nous tenons fermement cette espérance, jamais nous ne déchoirons de notre fermeté parce que Jésus a mis cette espérance au-delà du voile, que son nom soit glorifié. Alléluia. L'apôtre Paul a pu dire, j'ai gardé la foi, que son nom, le nom du Seigneur soit glorifié parce que c'est lui qui veille sur chacun d'entre nous, à lui seul soit toute la gloire. Alléluia. On va ensemble, eh bien, remettre nos cœurs au Seigneur. Merci Seigneur, il est notre ancre, il est notre voile, il est celui qui vient souffler par son Saint-Esprit sur nous. Peut-être, on va prier le Seigneur et peut-être on pourrait conclure le chant avec ce dernier chant que nos bien-aimés frères et sœurs tout à l'heure ont chanté, « Mon ancre et ma voile », on va le rechanter. On va prier ensemble le Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette espérance que tu nous as proposée, que nous avons saisie et que nous ne voulons pas lâcher. Cette espérance, Seigneur, qui est pour nous comme une ancre de l'âme, que tu as mis en lieu sûr au-delà du voile, c'est toi qui l'y as mise, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Nous voulons continuer à avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur, pour marcher ici-bas. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous voulons regarder à toi. Seigneur, quoi qu'il arrive dans notre vie, quoi qu'il arrive dans ce monde, c'est à toi que nous voulons regarder. Les choses qui arrivent aujourd'hui, tu nous les avais averties, mais tu nous as dit aussi de ne pas nous attrister, de relever notre tête, parce que notre délivrance approche. Tu as mis cette espérance, et ta parole est oui et amen. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Tu connais les chemins de chacun, tu vois peut-être que des bien-aimés, Seigneur, en ce moment sont découragés à cause de tout ce qui peut arriver. Mais Seigneur, c'est toi qui ce matin nous rappelle que tu as placé dans nos cœurs cette espérance qui nous provient de ta parole et que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour. Béni sois-tu, Jésus. Fortifie-les intérieurement.